Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour et bienvenue dans ce 10-10. Aujourd'hui, on accueille Amalia, Héloïse et Quentin, avec qui on va parler de la SPA Montpellier, hein, Société Protectrice des Animaux, qui a son siège, je crois, son local ou ses locaux à Villeneuve-les-Maglones, donc c'est dans la métropole, et avec qui on va aborder un peu tous les métiers de la SPA et tous les publics accueillis, un public varié, si j'ai bien compris. Bonjour Amalia, bonjour Héloïse, bonjour Quentin. Quelques mots quand même sur la SPA Montpellier. C'est une association qui a déjà une longue histoire derrière elle.
Oui, elle a été fondée en 1934 et c'est une association à but non lucratif. Et elle fait partie d'un réseau du coup national de la défense de l'animal où on est environ 260 refuges un peu partout répartis en France. Et elle bénéficie d'une subvention de la métropole.
D'accord, donc c'est quasiment une sorte de service public de la métropole, la SPA Montpellier.
Oui, oui, oui.
Et vous êtes chargé d'accueillir toute une série d'animaux, mais aussi de les mettre à disposition. Mais les gens peuvent venir juste. C'est quoi au fond les métiers de la SPA ?
Alors, on intervient sur plusieurs points. On va récupérer les animaux abandonnés ou les animaux qui vont être égarés, retrouvés errants. On va aussi s'occuper de tout ce qui est les maltraitances pour pouvoir retirer l'animal, le recueillir, le soigner. Et après, quand on a recueilli tous ces animaux et qu'on les a soignés, pucés, vaccinés, stérilisés, etc., et qui ont été pris en charge par nos animaliers, on les remet à l'adoption. Et donc là, ils peuvent être repris par des familles d'adoptants.
Et alors, combien d'animaux divers et variés avez-vous en ce moment chez vous ?
Actuellement, côté refuge, on a 120 chiens. Et pour les chats, c'est un peu plus difficile à chiffrer, puisque du coup, il y en a beaucoup qui rentrent, mais il y en a aussi beaucoup qui sortent.
Donc, c'est-à-dire que, en fait, ils sont adoptés assez vite ?
Pour les chats, oui, plus facilement que pour les chiens, forcément, puisque ça ne représente pas la même chose pour les adoptants. Mais les chats, on en a beaucoup qui rentrent, mais beaucoup qui sortent aussi.
Alors, chats, chiens, mais pas que ?
Oui, on a quelques NAC, donc c'est les nouveaux animaux de compagnie, animaux et furets. En ce moment, on n'en a pas, mais ça nous est arrivé d'en récupérer quelques-uns, oui.
Et alors, quand on trouve un boa dans un appartement, c'est vous qui le récupérez aussi ou il va tout à fait ailleurs ?
Alors, ça dépend. On peut nous appeler et nous, derrière, on peut le replacer dans une association spécialisée, par exemple, parce qu'on ne va pas avoir, nous, pas encore d'équipement pour accueillir tout ce qui est serpent, mygale, ce type d'animaux-là. Mais on a plein de contacts avec des associations qui, eux, sont équipées et peuvent les récupérer.
D'accord, donc vous êtes un peu tête de réseau, centre d'aiguillage un peu pour tout type d'animaux qui seraient, entre guillemets, récupérés sur la voie publique. Et comment ça se décide quand vous parlez de maltraitance animale ? Comment ça se passe comment on arrive à... Quand on maltraite un animal, est-ce qu'il soit repris, signalé
Alors, ça dépend. Nous, on a une partie de nos bénévoles enquêteurs. Et donc, eux, en fait, sont démarchés à la suite de signalements. S'il y a des signalements par les voisins, par une personne qui a assisté à de la maltraitance ou qui suspecte de la maltraitance, parce que c'est pas toujours des cas avérés. Dans ces cas-là, elles nous contactent et nous, on envoie des bénévoles enquêteurs sur place qui vont, comme le nom l'indique, enquêter, donc voir si c'est bien un cas de maltraitance, quel type de maltraitance est fait. Et après, c'est eux qui gèrent le dossier et qui vont aller voir pour retirer l'animal.
Et alors, c'est une démarche qui passe par un circuit judiciaire ou c'est vraiment une démarche... vos enquêteurs concluent à la maltraitance et il y a une sorte de... Enfin, à un moment donné, la justice est saisie ou pas ? Parce que on ne retire pas un animal comme ça chez quelqu'un sans avoir une sorte de, d'injonction à ce qu'il soit retiré,
enfin, non, non, quand on a des cas comme ça de maltraitance pour, avec la, le, retire, enfin, le retrait de l'animal, on a recours à...
Bah, en fait, on fait appel à la justice.
Héloïse.
Voilà. On va bah, faire appel en premier lieu à une plainte auprès des forces de l'ordre, la police ou,
et
c'est ou
vous
la
qui faites la, c'est vous qui faites la plainte sur la foi de votre rapport.
Nous, dans le sens où la direction.
D'accord.
C'est
oui,
pas
oui,
nous
bien
en tant qu'éducateurs ou les bénévoles. Les bénévoles, eux, transmettent ce qu'ils ont vu et après au niveau de la direction prennent la décision en fait de,
bah,
de
d'une action
judiciaire envers la personne et c'est la justice qui décide de la saisie de l'animal. Et une fois qu'on a cette réception de justice, nous,
vous
on peut intervenir.
Agir.
Mais sinon, oui, on ne va pas chez les gens comme ça, on ne récupère pas leurs animaux comme ça. Quoi.
Et l'animal, il est retiré de manière permanente ou temporaire? Parce qu'il peut y avoir des cas peut-être un peu différents.
Non,
enfin, chaque cas
en fait,
différent.
Une fois que la décision elle est prise, c'est qu'il y a une réelle maltraitance. Et du coup, l'animal est retiré totalement. On peut avoir... on peut avoir des choses qui sont pas top, mais on n'est pas au point de la maltraitance. Mm-hmm. Et à ce moment-là, nous, la SPA, on va donner des conseils à la personne en disant, bah voilà, vous vous rendez bien compte que vous pouvez pas laisser votre chien tant de temps sans être sorti, que voilà, il y a des petites choses où en fait, on va leur dire d'améliorer le confort de l'animal, et par la suite, on reviendra vérifier que tout a été fait. Et là, il y a pas de souci, l'animal n'est pas retiré. Quand il est retiré, c'est qu'il y a vraiment une maltraitance réelle.
Et quand vous récupérez ces animaux, chats, chiens et voire autres, ils sont donc dans un état de souffrance. Alors bon, la souffrance animale, c'est aussi une réalité, hein, c'est pas simplement une idée. Comment on fait pour rassurer Enfin voilà, on fait pas de la psychanalyse pour chien quand même.
C'est pas de la psychanalyse, mais en fait c'est beaucoup de soutien en fait. C'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte le traumatisme que c'est pour un chien d'arriver chez nous. Nous on s'en rend compte parce qu'on le voit tous les jours et le chien perd tous ses repères, il est totalement en panique. La plupart du temps, les premiers jours, nous on peut pas les approcher. Il nous laisse pas les toucher, donc en fait on doit rétablir un lien de confiance avec l'animal. Des fois, ça prend quelques heures, des fois, ça prend des semaines pour que l'animal se laisse approcher et reprenne confiance en l'humain. Donc, ce n'est pas la psychanalyse, mais il y a quand même un travail sur l'émotionnel de l'animal pour pouvoir lui redonner confiance.
Et alors, quels sont les animaux qui sont les plus faciles à rasséréner, les chiens, les chats Les chiens, ils ont des manifestations violentes. Les chats, c'est parfois plus discret.
Alors, moi, je m'occupe principalement des chiens, pas des chats. Mais non, les chats, c'est pas facile non plus.
Un coup de griffe est vite arrivé.
Je trouve qu'au contraire, c'est plus facile, entre parenthèses, le chien, dans le sens où ils sont plus faciles à comprendre et sont moins virulents. Parce qu'un chien, au final, si on respecte ses limites, même s'il n'est pas bien, il ne va pas nous charger. Le chat charge assez facilement.
Et puis, on a l'impression, mais ça, c'est l'ancien papa d'un chat, on va dire, que bon, le chat, il fait absolument ce qu'il a envie de faire, alors que le chien, lui, il est quand même en quête d'affection beaucoup plus, peut-être, ou d'attention que le chat.
Oui, le chat, c'est vrai que c'est plus... un petit roi, voilà, qui
énigmatique, toujours.
Il fait sa vie, voilà, il ne se prend pas trop la tête. Alors que le chien a cette particularité de vouloir faire des choses avec l'être humain. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Parce que c'est vrai qu'il a cette particularité de vouloir nous comprendre, vouloir comprendre ce qu'on attend de lui. Et du coup, il y a cet échange qu'on a avec le chien, quoi.
Alors, vous êtes une équipe, hein, je crois, 24 salariés, avec des métiers différents. Et donc, vous, Héloïse, vous êtes éducatrice canine, donc mm-hmm. pour chiens. Alors, c'est un métier que vous exercez à l'intérieur de la SPA Montpellier et aussi à l'extérieur, si je comprends bien.
C'est ça. On est deux éducatrices au sein de la SPA. On est du coup prestataire. Donc, la SPA fait partie de nos clients. On a aussi nos clients à l'extérieur qui sont des particuliers, qui ont des problématiques avec leurs chiens. Et à la SPA, notre rôle, c'est du coup d'aider ces chiens qui viennent d'arriver, qui sont en détresse. On a des chiens qui ont certaines aussi problématiques de comportement. Donc, c'est travailler avec les bénévoles pour pouvoir aider les chiens à s'améliorer.
Donc là, c'est un travail plutôt sur l'animal.
Oui. À la SPA, on va plus travailler sur le chien en lui-même que nous avec nos clients, où au final, en clientèle, on travaille beaucoup plus à l'humain. Parce qu'en fait,
c'est d'éduquer l'humain à son chien.
On essaie d'amener de la communication entre le maître et son chien pour qu'il puisse mieux comprendre la façon dont réfléchit son chien pour justement
agir en conséquence.
C'est ça, voilà, agir en conséquence quand il y a des petites problématiques qui arrivent.
Et alors, est-ce qu'il faudrait quasiment que chaque maître, à un moment donné, fasse quelques heures d'éducation, au dressage, c'est un peu ça quand même, pour avoir une relation assez saine, parce qu'on a quand même des maîtres qui font parfois n'importe quoi.
Alors oui, je pense que ça serait bien. On a certaines villes en France, je sais, qui l'ont imposé, que les propriétaires de chiens passent, qu'elle fasse quelques cours en éducation afin de s'assurer que le maître soit bien en capacité de s'occuper de son chien et que son chien aussi soit capable de s'intégrer dans la vie humaine, dans la vie citadine et soit capable de respecter certaines règles. Et je trouve que c'est très bien parce qu'au final, on juge beaucoup un chien à son faciès, à sa race, alors qu'au final, tout chien bien éduqué peut totalement s'intégrer dans n'importe quelle vie.
On pense en particulier à ces chiens d'attaque, un peu, qu'on voit parfois sans muselière et qui effraient de bon droit le monsieur ou la dame qui est dans la rue et qui peut se sentir mis en danger.
C'est ça. On le voit, nous, à la SPA, on a beaucoup de croisés Amstaff ou des choses comme ça. On a aussi beaucoup de Malinois, ouais, malheureusement. Et c'est vrai que c'est des chiens qui sont beaucoup jugés parce que les gens ont peur de ces chiens-là. Mais au final, c'est pas les plus terribles, c'est l'éducation du chien, parce qu'on peut avoir un Shiba, un Golden Retriever,
qui sont plutôt des grosses peluches
et qui sont pourtant
très agressifs,
qui peuvent être plus agressifs par rapport à l'éducation qu'ils ont eue.
Ah, on a du mal à imaginer ça du Shiba quand même.
Eh ben, on en a un, la SPA, notre petit démon préféré, Sushi. Qui fait partie de nos chiens les plus compliqués actuellement à la SPA.
Alors, les chiens ont été retirés, ils sont chez vous depuis quelques temps et vous les remettez à l'adoption. Comment ça se passe un peu là ? C'est une rencontre aussi, un chien et son futur maître.
Oui. En fait, la SPA est ouverte tous les jours, donc à partir de 13h30, les gens peuvent venir visiter le refuge, voir les chiens. Qui sont dans leur box ou qui sont baladés par nos bénévoles dans la journée. Et si jamais il y a un chien qui les intéresse, à ce moment-là, ça peut être nous, les éducatrices, ou les animaliers qui interviennent pour faire la rencontre. On discute avec les gens, on échange sur leurs projets. Ce sont des chiens qui ont déjà été abandonnés, donc un animal ne part pas comme ça. On s'assure que les gens, c'est une décision qui est réfléchie et qu'ils soient prêts pour ça. On s'assure aussi que le chien correspond aux gens, parce que on a
plein de chiens différents. Alors comment on voit ça ?
Par rapport déjà à la personnalité aussi des gens et la personnalité des chiens, c'est sûr que si on a un chien qui est très actif, qui a besoin de beaucoup se dépenser, voilà, qui a une vraie petite pile électrique, et qu'on a une personne, son activité préférée c'est le canapé, ça va pas être ce caractère-là qu'on va lui recommander. Pareil, on a une personne qui est hyper dynamique, qui adore faire 1000 choses à la fois, et un chien qui est hyper plan-plan, pareil, c'est pas la bonne dynamique, c'est pas le bon duo. Donc c'est en discutant avec les gens, et nous en connaissant nos chiens, qu'on va pouvoir leur recommander tel ou tel chien. On va faire une balade avec eux aussi pour voir s'ils sont en capacité de tenir le chien, parce que des fois, les chiens sont plus forts que ce que les gens pensent, et du coup, ne sont pas aptes à pouvoir...
C'est vrai que physiquement, on peut être emporté par son chien.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'on regarde plein de choses selon les chiens qu'on a, parce que comme vous le savez, on est deux éducatrices à travailler à la SPA, donc on a des chiens qui ont des plus fortes problématiques, qui sont sur la ligne éducative. Ces chiens-là prennent plus de temps à l'adoption. Nous, on prend beaucoup plus notre temps parce que les gens savent que par la suite, ils auront besoin d'un éducateur canin pour travailler ces problématiques. Donc, on s'assure de faire plusieurs rendez-vous. On fait des sorties extérieures avec les gens. Parfois, quand ils sont autour de Montpellier, on va même chez eux avec le chien pour s'assurer que l'environnement correspond au chien. On prend le temps. On ne fait pas n'importe quoi pour être sûr que le chien ne revienne pas.
Et vous avez fait tout ça, vous êtes convenu effectivement que le chien, ça allait coller. y a un temps d'adaptation. Est-ce qu'il y a un temps de rétractation ? Parce qu'on peut aussi se rendre compte au bout de 15 jours que c'est pas du tout ce qu'on pensait, quoi.
Il n'y a pas de délai de rétractation. Ce n'est pas un objet, c'est un animal avec des émotions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est traumatisant pour eux d'arriver à la SPA, de revenir aussi. Donc non, c'est pour ça qu'on fait plusieurs rendez-vous, qu'on parle beaucoup avec les gens, qu'on leur donne beaucoup d'informations, des fois peut-être trop, parce qu'on sait qu'ils sont un peu noyés par toutes les informations qu'on leur donne, et on a un suivi. Les gens, quand ils partent, on garde contact avec eux pour s'assurer que tout se passe bien, et si jamais il y a des difficultés, on leur dit que il faut se faire aider par l'éducateur.
En fait, ma question, je crois qu'elle était un peu en amont, c'est-à-dire qu'il y a ce premier rendez-vous, il y a ces premiers contacts, mais il y a un temps de réflexion avant d'aller jusqu'au bout de la démarche et de prendre le chien.
Oui, les gens peuvent réfléchir.
Oui, dans tous les cas, la personne, quand elle vient, les adoptants, quand ils viennent rencontrer l'animal, ils ne repartent pas avec l'animal le jour même. Dans tous les cas, on ne fait pas partir le jour J. Comme ça, ça leur permet de réfléchir, d'en parler, parce que des fois, ils sont plusieurs à prendre la décision si c'est une famille. Comme disait Héloïse, le but, c'est que les chiens partent et ne reviennent pas, parce que c'est déjà très traumatisant d'être ici. Mais de sortir et de revenir, de rechanger les habitudes, de revenir dans un contexte refuge, nous, ce n'est pas le but. Donc, on ne met pas la pression pour qu'ils soient adoptés. On veut juste que la décision soit réfléchie jusqu'au bout.
Oui, au contraire, on a plus, nous, la pression des gens qui nous disent « je repars avec ». Alors non, c'est pas possible, il va falloir un petit temps, on va se revoir plusieurs fois, mais voilà, les chiens ne partent pas une fois, on laisse le temps aux gens de bien réfléchir.
Quelques notes de musique, on se retrouve juste après pour continuer à parler de la SPA Montpellier. De retour dans ce 10-10 où on accueille Amalia, Héloïse et Quentin pour parler de la SPA Montpellier. Donc SPA qui fait partie d'un réseau national. Ça veut dire que vous, par exemple, que vous échangez des animaux dans ce réseau? C'est
alors,
une question qui me vient comme ça,
ça nous arrive effectivement, oui, d'échanger des animaux. On en a échangé une il n'y a pas si longtemps avec d'autres associations.
Parce qu'il y a des demandes ici ou là particulières auxquelles ils ne peuvent pas répondre et vous pouvez répondre?
C'est pas toujours pour des demandes pour des familles d'adoptants, ça va plutôt être par exemple pour des... nous, on a du coup des éducatrices, ce qui n'est pas le cas dans tous les refuges. Et du coup, certaines personnes, des fois, vont vouloir faire des échanges puisque du coup, les chiens peuvent être ici plus suivis au niveau comportemental. Et ça nous arrive, on en a eu avec l'association tunisienne aussi. Il me semble, qui nous en a envoyé deux il n'y a pas très longtemps.
Vous avez un dispositif que vous mettez en place, que vous pilotez, qui s'appelle Andy Chien. Et c'est un peu votre actualité, là. Donc, parlez-nous-en. Andy Chien, bon, ce n'est pas des chiens handicapés, c'est plutôt non. Des chiens qui peuvent aider des personnes handicapées.
C'est ça, on a signé un partenariat avec Andy Chien afin qu'ils puissent du coup, sélectionner des chiens chez nous au sein de la SPA. Pour par la suite du coup être formé par Andy Chien pour aider les personnes soit à mobilité réduite, on a aussi les personnes atteintes d'épilepsie et aussi pour devenir assistant judiciaire.
Assistant judiciaire, oui. Dites-en un peu plus.
Alors un chien qui est assistant judiciaire, en fait c'est pour les personnes victimes,
okay.
Pendant tout le processus judiciaire, puissent être accompagnées, souvent ça va être des enfants, pour être rassurés. Grâce aux chiens pendant toute cette procédure.
D'accord. Bon. Et alors, ces chiens qui viennent chez vous, bon, on connaît tous les chiens d'aveugles qui accompagnent les personnes à vision très réduite ou complètement aveugle. Là, c'est donc un autre public et c'est sans doute d'autres modes de formation de ces chiens, parce que c'est pas exactement les mêmes gestes à produire.
C'est pas du tout la même formation, même nous, pour les chiens qu'on va sélectionner. Donc, ça, après, c'est Andy Chien qui va voir le potentiel des chiens par rapport à ce qu'il recherche. Parce qu'un chien qui va être pour les personnes à mobilité réduite, on va attendre de lui qu'il ouvre des portes, qu'il allume des lumières, qu'il récupère des objets pour la personne. Quelqu'un qui a atteint d'épilepsie, le but, c'est qu'il puisse prévenir avant que la crise arrive.
C'est-à-dire sentir que la personne va faire une crise.
C'est ça, tout à fait. Grâce à l'odorat du chien, en fait, qui aura été entraîné en amont, il pourra prévenir la personne avant que la crise arrive et que du coup, la personne se mette en sécurité avant que sa crise arrive.
On n'imagine absolument pas ce genre de geste, c'est incroyable.
Oui, le chien est capable de beaucoup de choses et c'est vrai que c'est ça qui est assez beau dans ce partenariat, c'est qu'en fait, du coup, ça donne une seconde chance à nos chiens. C'est pas quelque chose qui est fait régulièrement par les associations comme ça, parce que souvent ils vont plutôt sélectionner des chiens chez des éleveurs, parce que c'est plus facile. Hein.
Oui, on connaît le chien depuis sa
naissance. Ils commencent depuis
tout
petit et tout ça, ils partent sur des races qu'ils connaissent. Là, pour le coup, nous, ils vont être sur des chiens qui sont souvent croisés, donc où on ne connaît pas la race. Et c'est vrai que
ça, c'est des paris quoi qui sont faits.
Alors c'est pas vraiment des paris parce que on va vraiment porter une grosse attention là-dessus. Nous, en fait, Andy Chien va faire venir vers mars chez nous deux éducateurs de chez eux pour pouvoir nous former sur comment sélectionner le chien pour ces activités-là. Donc nous, en amont, on va, comme on fait déjà d'habitude, observer nos chiens, déterminer quels sont leurs caractères. Une fois qu'on a vu des chiens qui auraient un certain potentiel, on va faire des tests. Les tests, c'est Andy Chien qui va nous former là-dessus. Par exemple, on va ouvrir un parapluie devant le chien, un objet étrange qui s'ouvre d'un coup, et voir comment le chien réagit, est-ce qu'il a une peur panique, est-ce qu'il n'arrive pas à revenir à ses émotions. Voilà, on va faire plein de petits tests comme ça. Nous, on va donner ces résultats à Andy Chien. Andy Chien vont analyser ces tests. Si ça leur convient, eux vont refaire des tests sur le chien.
Donc, vous faites un premier écrémage, si je puis dire.
C'est ça. Et une fois qu'eux, ils disent, c'est bon, ils récupèrent le chien. Le chien part un an en famille d'accueil. Et après, il part 6 mois en formation chez eux, dans leurs locaux.
Alors, en famille d'accueil, ça veut dire que là, il va être déjà avec une personne qui présente un handicap
Non, il va être avec une famille lambda. Et eux vont commencer un premier processus un petit peu d'éducation où il va apprendre les choses de base, le assis, le coucher, voilà, et surtout beaucoup de socialisation. Ça veut dire qu'il va découvrir l'environnement, les magasins, le bruit, les gens, parce que ça sera sa vie future d'accompagner la personne handicapée. Donc du coup, il y a toute cette partie-là qui est faite par les familles d'accueil. Il a une vie quotidienne dans une vraie maison avec des bruits de tous les jours, et après la formation réel de ce que le chien doit savoir faire.
Du coup, c'est quand même un processus qui est très long entre le repérage, la sélection, ce sas dans une famille plus la formation. En fait, c'est plusieurs années.
Le repérage, non, c'est assez rapide pour nous parce qu'au final, ça va nous prendre le temps d'effectuer les tests quelques heures. Ce qui est long, c'est la formation, mais la formation est toujours très longue pour les chiens d'assistance. La sociabilité de l'animal est hyper importante, mais c'est très long. Découvrir la plage, découvrir les magasins, les différents bruits, les différents gens, les chiens. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est long, de 1 an. Et après, la formation de 6 mois pour apprendre à allumer une lumière, ouvrir une porte, tout ça.
Vous dites que c'est un partenariat avec Andy Chien. Vous êtes les seuls à faire ça, ou effectivement, vous êtes les seuls en France à faire ça?
Actuellement, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui commence. C'est une expérimentation. C'est ça, c'est quelque chose qui commence, donc on découvre et on fait au fur et à mesure. On se doute bien que ils vont pas nous prendre 50 chiens à l'année. Mais même si on part sur 10 chiens à l'année, c'est 10 chiens qui ont une chance de plus de pouvoir avoir une famille. Oui.
Et surtout là, enfin, j'ai d'autant plus aimante que il y a une communauté, une communion entre le chien et son maître, compte tenu du handicap de l'un.
C'est très rassurant pour nous que le chien parte avec Andy Chien, parce que on sait que le chien sera bien. Il n'y a pas de questions à se poser. En plus de ça, si jamais le chien ne réussit pas sa formation, parce que ça arrive, pas que les chiens de refuge, mais aussi quand bien ils sûr, prennent ouais. Dans des élevages, si le chien ne réussit pas sa formation, Andy Chien replacera l'animal dans une famille. Alors, souvent, c'est la famille d'accueil qui s'est occupée du chien, qui leur disent que du coup, le chien n'a pas réussi la formation. Les gens sont très attachés à l'animal, du coup, ils le récupèrent. Ou des gens de la famille, de ceux qui se sont occupés.
Globalement, sur la France entière, c'est combien d'animaux là, comme ça qui sont élevés, à la fois pour aider les personnes qui voient mal et les autres handicaps? On a une idée?
C'est
un potentiel énorme.
C'est Andy Chien, et je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais que ça doit être entre 100 et 200 chiens l'année, je crois. C'est quand même un sacré travail.
On sent un énorme travail pour un résultat qui est, j'allais dire, modeste. C'est pas une critique, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier de ce genre d'aide.
Je dirais pas modeste, parce que effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais l'animal va apporter quelque chose d'incroyable à la vie d'une personne pendant plusieurs années, ouais. Quoi. Parce que, alors nous, les chiens, ils ont, je crois, ça sera moins de 36 mois, je crois, on avait dit. Les chiens doivent avoir pour être sélectionnés, c'est ça. Quand on dit chien, ils les prennent à l'élevage, ils sont chiots, quoi. Ils partent dans les familles d'accueil. Donc, à 2 ans, ils commencent à travailler, entre parenthèses, à faire leur travail de chien d'assistance. Donc, le chien, il est quand même là pendant pas mal d'années auprès de la famille. Et pour les gens qui sont atteints d'un handicap, c'est vraiment quand même une grande aide et aussi un grand soutien émotionnel.
C'est très important. Revenons un peu aux chiens et aux chats que vous hébergez. Donc, je ne sais plus si on a cité un nombre tout à l'heure, je ne sais plus, actuellement dans le refuge.
120 côté, du coup, côté refuge uniquement, on est à 120 chiens et les chats, je vous ai dit, ça bouge un peu vu qu'il y en a beaucoup qui rentrent et qui sortent. Donc là, oui, on doit être côté fourrière, je ne sais plus du tout combien ils sont.
Et donc, on disait, vous étiez 24 salariés, c'est-à-dire que au-delà des éducatrices, il y a donc du personnel qui est là en permanence pour être avec les animaux.
C'est ça, on a donc des animaliers qui, eux, vont faire tout ce qui est le soin aux animaux, plutôt les nourrir, nettoyer les boxes. On va avoir des soigneurs, du coup, qui, eux, vont faire tout ce qui est la bobologie. On a des vétérinaires qui viennent
Ponctuellement, sans doute, là.
Voilà, c'est ouais. ça, au refuge. C'est, des, bah, c'est assez régulier, c'est deux fois par semaine. Les mardis et vendredis, qui viennent pour tout ce qui est les vaccins, les stérilisations, les choses comme ça, ou les bobos plus graves, on va dire. Et ils viennent deux fois par semaine pour, du coup, tous les animaux.
Alors, on a dit tout à l'heure SP à Montpellier, on a parlé du territoire métropolitain, mais en fait, ce n'est pas que simplement les gens des 31 communes de la métropole qui peuvent travailler avec vous, enfin amener éventuellement des animaux ou venir chercher des animaux, c'est probablement tout le département, ou voire un peu plus.
Alors, ça dépend, puisque par exemple, si c'est des animaux errants, on n'intervient pas sur toutes les communes, du coup. Et pour les abandons, effectivement... on refuse pas des abandons, mais le but, c'est pas que la personne elle vienne abandonner non plus de Paris jusqu'à ici, parce que
on manque de place.
Voilà,
manque de place.
Ceci donc, dit, ça serait une démarche volontaire. C'est quand même beaucoup mieux que les chiens abandonnés sur des aires d'autoroute, quand même.
C'est mieux, bien sûr, c'est mieux une démarche volontaire, parce que déjà abandonner son animal sur l'autoroute, c'est hyper dangereux pour l'animal. Mais le mieux, c'est de pas abandonner du tout.
Évidemment.
Le mieux, c'est de réfléchir avant de prendre un chien, de pas abandonner, parce que effectivement, malheureusement, parfois, on est obligé de refuser, parce qu'en fait, on n'a pas de place, et quand on n'a pas de place, on peut pas pousser les murs. On a des réglementations de sécurité pour les animaux, ce qui est normal. Donc, des fois, malheureusement, on peut pas prendre les chiens. C'est vrai qu'on a parlé, nous, les éducateurs, on a parlé des animaliers, on a parlé des soigneurs, mais on a oublié de parler de surtout un poste qui est très important chez nous.
C'est lequel?
Les bénévoles. On est une association qui a énormément de bénévoles parce que ils sont quoi?
400 bénévoles en tout.
Qui sont des observateurs, des veilleurs.
Alors,
qui
ne sont pas observateurs, ils sont très actifs auprès de la SPA parce qu'ils promènent nos chiens tous les jours. Tous les jours, les chiens de la SPA sont sortis. Ils les brossent, ils passent du temps avec eux, ils font des câlins. Nous, on part en balade éducative, donc on part en balade à l'extérieur avec les chiens, avec les bénévoles. On fait de l'agility, on fait des activités. Ils sont vraiment importants au sein de la SPA parce qu'ils font énormément de choses pour nos chiens.
Et là aussi, c'est une question peut-être un peu baroque, mais on parle souvent de l'équithérapie comme une méthode aussi de soins pour les personnes. Est-ce que vous avez dans vos bénévoles des gens qui viennent aussi un peu se soigner avec une relation particulière aux animaux?
Alors, pas forcément se soigner, mais je sais que pour beaucoup...
Ou se rassurer, par exemple, tout simplement.
Pour beaucoup, ça va aussi être l'occasion d'avoir du contact avec des animaux quand ils ne peuvent pas encore adopter eux. On en a énormément qui... ne peuvent pas adopter pour des raisons financières ou des raisons d'organisation, mais qui seront là tous les jours pour balader nos chiens.
Ils ont un animal ou des animaux par procuration, d'une certaine manière.
C'est ça.
Et puis, ils s'en occupent extrêmement bien. Ils sont aussi très engagés dans ce qu'on fait, parce qu'on a des partenariats avec Andy Chien. Mais nos chiens vont aussi en EHPAD avec les bénévoles pour apporter du soutien aux personnes âgées. On travaille aussi avec les forces de l'ordre, surtout pour nos Malinois qui,
sont des animaux impressionnants, on le sait.
Ont besoin de trouver une famille. C'est
avec
vrai
la Fédération des aveugles aussi, les chiens vont...
On arrive quasiment au terme de cet court entretien. Comment on vous rejoint à la SPA? Il y a un téléphone, il y a un site internet, il y a une adresse aussi.
Alors,
dites-nous
tout. Du coup, nous, notre refuge, il est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h. On est à Villeneuve-les-Maglones, sur la route départementale. On a notre site internet, du coup, spa-montpellier.org. Vous pouvez nous contacter pour plein de choses. Pour être bénévole, c'est aussi là qu'on s'inscrit pour la formation. Et c'est aussi là qu'on peut voir tous les animaux présents au refuge.
Eh bien, Amalia, Héloïse et Quentin, qui restaient très, très discrets car il est en stage, mais qui aurait peut-être pu aussi nous donner son point de vue. On referme cette rencontre avec la SPA Montpellier. Et donc, n'hésitez pas à les contacter et pourquoi pas aller à la rencontre d'un animal si le désir vous en prend. C'était Yann à la technique ce matin. Bonne journée à vous.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.